Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Ravie de vous retrouver ce matin pour parler des étoiles. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus particulièrement d'exploration spatiale. Nous allons faire un petit voyage dans le temps et dans l'espace et voir comment l'homme a repoussé petit à petit les limites de sa connaissance pour découvrir les merveilles de l'univers. Alors d'abord une petite définition. Qu'est-ce que l'exploration spatiale ? Ça regroupe l'ensemble des activités humaines qui se passent dans l'espace, c'est-à-dire en dehors de l'atmosphère terrestre. L'exploration spatiale repose sur l'astronautique, qui est l'ensemble des sciences et des techniques qui visent à envoyer dans l'espace des engins, habités ou non. Les rêves d'exploration de l'espace sont intimement liés à l'astronomie. En effet, l'observation et la compréhension du ciel furent primordiales pour les premières civilisations humaines, dans un but utilitaire pour l'agriculture ou l'établissement des calendriers, mais aussi dans un but philosophique, pour rechercher des réponses à des questions sur notre provenance, sur la raison de notre existence, sur notre place dans l'univers. L'étude des astres et du cosmos s'est révélée nécessaire. Deux solutions sont accessibles à l'humanité. La première, c'est d'observer les astres depuis la Terre et de comprendre leur mouvement par le biais des outils mathématiques. Donc ça, c'est l'astronomie. Et la deuxième, c'est d'aller voir sur place et d'étudier les astres de près. C'est ce qui deviendra plus tard l'exploration spatiale. Dès l'Antiquité, on trouve des récits imaginant la présence de civilisations extraterrestres vivant sur la Lune. En l'an 125, Lucien de Samosate écrit une histoire vraie, dans laquelle il relate les aventures d'Ulysse qui voyage vers la Lune où il assiste à une guerre entre les habitants de la Lune et ceux du Soleil. L'ouvrage était cependant destiné à dépeindre la société de l'époque. C'est dans la Chine médiévale que l'on trouve les premières fusées, dont les premiers écrits remontent à 1232. Maître de la poudre à canon, les armées chinoises utilisaient ces petits tubes comme missiles lors des batailles. On y retrouve également, trois siècles plus tard, la légende de Wan Hu, qui tente de rejoindre la Lune par une chaise propulsée par 47 fusées à poudre. Plus tard, au XVIIe siècle, Savagnin de Cyrano, qui est le vrai Cyrano de Bergerac, écrit des nouvelles qui dépeignent d'hypothétiques sociétés vivant sur la Lune et le Soleil. Là encore, l'objectif, c'est de proposer un regard sur la société bien humaine. Il faut attendre le XIXe siècle pour voir apparaître les premiers ouvrages plus techniques et anticipatifs. L'exemple le plus populaire, c'est le roman « De la Terre à la Lune », où Jules Verne décrit le voyage spatial dans un vaisseau habité et tiré comme un projectile par un grand canon de type Columbiad. L'auteur, par son approche scientifique, y décrit de manière inédite les phénomènes d'impesanteur produits par l'inertie du vaisseau. Phénomène qui sera vécu un siècle plus tard par Yuri Gagarin en 1961 lors du premier vol spatial habité. Le reste du siècle foisonne d'œuvres littéraires moins connues qui imaginent des enjeux et des techniques de voyage spatial qui deviendront réalité au siècle suivant. C'est le français Robert Esnault Peltry qui a, dès 1904, inventé plusieurs éléments clés dans la création de l'aviation. L'aileron, le manche à balai, le moteur en étoile. Ses connaissances approfondies en balistique, en mécanique céleste, en astrophysique, en physico-chimie, comme en physiologie, le poussèrent à s'intéresser de près à l'astronautique. Il a eu aussi, dès 1908, la première idée, bon, purement théorique d'abord, d'une fusée, mue par un moteur à réaction capable de s'extraire de la gravité terrestre. En 1912, il produit un mémoire sous le titre prudent de « Considération sur le résultat d'un allègement indéfini des moteurs ». En 1927, il se présenta à une conférence ayant pour titre « L'exploration par fusée de la très haute atmosphère, la possibilité des voyages interplanétaires ». C'est lors de cette conférence que le terme astronautique est né, et je vous propose d'écouter André Hirsch nous raconter la naissance de ce terme.
En 1927, à la première réunion du comité, nous avions la chance d'avoir parmi nous le président de l'Académie Goncourt, qui s'appelait J.H. Rony Aîné. Robert Esnault Peltry avait proposé pour cette science nouvelle, qu'il fallait tout de même bien baptiser, le nom de sidération par parallèle avec l'aviation. Mais nous avons trouvé le titre un peu ridicule, et après avoir proposé le mot cosmonautique, J.H. Rony Aîné a proposé le mot astronautique, qui a été adopté à l'unanimité et qui, on peut le dire, a fait le tour du monde.
Il y a deux grands domaines dans l'exploration spatiale, en fonction que les engins soient habités ou non par des humains. Et aujourd'hui, je vous propose de se concentrer sur les sondes spatiales, étant donné que j'ai déjà parlé de deux voyages très importants dans l'espace dans les précédents podcasts. Les sondes sont envoyées dans l'espace grâce à un lanceur, une fusée, et elles vont aller étudier à plus ou moins grande distance des corps célestes. Ça peut être des planètes, des satellites naturels, des astéroïdes, des comètes. Pour les étudier, la sonde embarque un certain nombre d'instruments scientifiques qui constituent sa charge utile. Les sondes spatiales peuvent prendre un grand nombre de formes pour remplir leur mission. La sonde peut effectuer un survol de l'objet céleste. Dans ce cas, la sonde observe l'objet en passant assez proche, donc probablement sur une seule face, pas toujours dans des conditions optimales. Mais c'est souvent le seul moyen d'observer des objets très lointains, comme le survol de Pluton par New Horizons ou des petits astéroïdes autour duquel on ne peut pas vraiment mettre une sonde en orbite. Ou encore, ça sert aussi de reconnaissance pour des missions ultérieures, comme par exemple les sondes Voyager. La sonde peut être aussi un orbiteur, placé en orbite autour du corps céleste qu'elle observe. Pour pouvoir se mettre en orbite, la sonde spatiale doit réduire fortement sa vitesse quand elle arrive à proximité de son objectif. Les carburants utilisés dans cette opération de freinage peuvent représenter une part importante de la masse totale de l'engin. Typiquement, pour Mars, c'est 50% du poids de l'engin qui est utilisé en carburant de freinage. L'orbiteur permet d'effectuer des observations régulières sur la quasi-totalité de la surface du corps pendant plusieurs années. L'orbiteur, c'est l'étape qui suit logiquement l'envoi d'une sonde faisant un survol. L'orbite de la sonde spatiale est choisie en fonction des objectifs poursuivis, mais également pour des contraintes de masse. Les missions ayant un budget contraint, comme Mars Express par exemple, vont choisir une orbite elliptique, un peu moins efficace, mais moins coûteuse en carburant. Les orbiteurs vont se concentrer sur l'analyse du rayonnement électromagnétique émis par les objets observés. Ces instruments sont par exemple des caméras, des spectromètres, des radars. Ils exploitent le fait que la matière dans tous ses états émet des rayonnements qui constituent une signature permettant de les identifier et de les quantifier. Enfin, la sonde spatiale peut aussi avoir un contact direct avec le corps céleste qu'elle va observer. Elle prend alors la forme d'un atterrisseur qui explore in situ le sol de la planète cible. La Lune et Mars ont été particulièrement explorés par des engins spatiaux de ce type, comme par exemple avec les sondes du programme Surveyor et les deux sondes du programme Viking ou encore l'atterrisseur Phoenix. L'atterrissage en douceur, c'est la principale difficulté à laquelle doivent faire face les concepteurs de ce type d'engin. L'utilisation d'un parachute, mis en œuvre par exemple par Huygens sur Titan, nécessite la présence d'une atmosphère suffisamment épaisse, et donc ça ne marche pas sur Mars. Ceci nécessite toutefois l'emport d'une grande quantité de carburant parce qu'il faut freiner au préalable la sonde. Pour Mars, la NASA a développé des techniques particulières d'atterrissage. Les coussins gonflables, mis en œuvre pour la première fois par Mars Pathfinder, ou un système très sophistiqué de dépose au sol par un étage faisant office de grue volante, mis en œuvre en 2012 par la sonde Mars Science Laboratory. Une fois posées sur le sol du corps céleste à observer, les sondes peuvent déployer leurs rovers, ou astromobiles. Ces rovers se déplacent pour réaliser des études in situ dans différents points présentant un intérêt scientifique. Il peut emporter de véritables petits laboratoires pour analyser des échantillons, comme par exemple le Mars Science Laboratory. Son énergie peut être produite par des panneaux solaires ou par des générateurs électriques nucléaires. Il est télécommandé si l'éloignement n'est pas trop important, comme sur la Lune. Cependant, si la distance est trop grande, comme par exemple pour les rovers martiens, il y a trop de délais de communication. Alors, les rovers disposent d'une certaine autonomie pour leur déplacement, qui repose sur des programmes d'analyse du terrain. Les déplacements sur une journée ne dépassent toutefois pas une centaine de mètres. La Lune et Mars sont à l'heure actuelle les deux seuls corps où des rovers ont été envoyés. Ils vont pouvoir étudier le sol, par exemple avec des sismographes, ou encore prélever des échantillons, les analyser sur place, comme Curiosity, qui embarquait un spectromètre de masse sur Mars. Et puis les résultats sont ensuite transmis à la Terre, souvent par l'orbiteur, qui est resté en orbite autour du corps et qui assure le relais de communication. Il est aussi possible de renvoyer des échantillons sur Terre pour des analyses plus précises. Bon, ça génère de nombreux défis pour redécoller vers la Terre. Évidemment, il serait beaucoup trop long de vous parler de toutes les sondes envoyées dans l'espace. Je voudrais juste évoquer la sonde Voyager 1. Voyager 1, c'est l'une des deux sondes spatiales jumelles du programme Voyager de la NASA, destinée à l'étude des planètes externes du système solaire. Jusque-là, ces planètes n'avaient été observées qu'au moyen de télescopes situés sur Terre, notamment les systèmes de Jupiter et de Saturne. Le lancement de Voyager 1 a eu lieu le 5 septembre 1977. Voyager 1 est, avec sa sonde jumelle Voyager 2, à l'origine d'un grand nombre de découvertes sur le système solaire, remettant parfois en cause ou affinant les modèles théoriques existants. À ce titre, c'est une des missions spatiales les plus fructueuses de l'Agence spatiale américaine. La sonde spatiale fait preuve d'une grande longévité. La sonde Voyager 1, malgré ses 47 ans, est toujours en mesure de communiquer avec la Terre. Elle vient de transmettre des données exploitables sur son état de santé, a annoncé la NASA ce 22 avril 2024. Et ça, c'était pas arrivé depuis novembre dernier. De fait, l'espoir renaît pour cet éclaireur qui se trouve aujourd'hui en dehors du système solaire. Ça faisait plusieurs mois que l'agence spatiale était confrontée à un épineux problème. Les données de télémétrie n'avaient plus aucun sens. Le système de données de vol ne communiquait pas correctement avec l'un des sous-systèmes de la sonde, appelé unité de télécommunication. Par conséquent, aucune donnée scientifique n'était envoyée vers la Terre, a indiqué la NASA. Cet ordinateur regroupe des données scientifiques et techniques de la sonde avant que l'unité de télémétrie et l'émetteur radio ne les envoient vers la Terre. Les évaluations de la NASA chiffrent à 3% le total de la mémoire affectée par cette corruption. Alors est-ce que c'est réparable ? Impossible évidemment d'envoyer un technicien pour une intervention. La NASA croit cependant qu'on doit pouvoir faire refonctionner le module normalement sans la mémoire utilisable, ce qui permettrait à Voyager 1 de recommencer à envoyer des données. Quant à savoir ce qu'a entraîné cette erreur, la NASA n'est sûre de rien. Une seule puce est responsable du stockage d'une partie. Une seule puce responsable du stockage d'une partie de la portion affectée pourrait être en cause. Ça peut venir d'un contact avec une molécule énergétique ou simplement du vieillissement du composant. Bon, tout n'est pas encore résolu. Si la NASA récupère désormais des données lisibles, il reste maintenant à rétablir la connexion des données scientifiques. Ça pourrait prendre plusieurs semaines, selon les estimations données par le centre de recherche de la NASA. Les opérations de maintenance sont complexifiées par l'immense distance qui sépare la Terre de Voyager 1. Même si un signal radio circule à la vitesse de la lumière, l'onde a besoin de plus de 22 heures pour aller jusqu'à Voyager et autant pour revenir. Et plus la sonde s'éloigne, plus ce délai augmente. Tous les efforts se justifient par la position exceptionnelle dans laquelle se trouve aujourd'hui Voyager 1. C'est l'objet conçu par l'humanité qui se trouve au plus loin de la Terre et qui évolue dans un milieu qu'on n'avait jamais pu saisir sur place, le milieu interstellaire. Et il n'y a que deux objets qui ont pu atteindre aujourd'hui cette région, et l'autre, c'est sa jumelle, Voyager 2.